Gemma Bovary, de Posie Simmons.
Adaptation radiophonique, Lily Stein.
10e et dernier épisode.
Drôle de drame.
Alors que j'aspire au calme et que j'essaie de remettre de l'ordre dans ma vie, Charlie décide de me quitter, me laissant seule avec nos dettes. La mère d'Hervé veut me poursuivre en justice à cause de cette statuette de Sèvres endommagée et, comme un diable hors de sa boîte, voilà que Patrick Large surgit à nouveau sur mon chemin.
Quand j'ai vu le combi tanguer dans le parking à Rouen, j'ignorais que Patrick et Gemma avaient un passé commun, qu'il avait été l'amour de sa vie. J'ai pensé qu'ils venaient de se rencontrer. Aurait-ce été un réconfort d'apprendre que cette passion qu'ils venaient de rallumer allait être de courte durée?
Allons chez toi, Gemma. On parlera.
Mais je t'ai dit, j'ai pas envie.
Mais pourquoi as-tu mis cette robe alors? Tu es absolument
Patrick,
trop sexy.
J'ai besoin d'être seule, je suis dans la merde.
Quelle merde?
Mais la vraie merde. Mon mari m'a quittée. J'ai des avocats français sur le dos à cause d'une statuette ancienne que j'ai perdue. Je dois une fortune à la banque qui a bloqué mon compte. Mon téléphone est coupé. Je suis dans la merde, Patrick. Écoute, Patrick, hey. Je vais rentrer, ok? Maintenant, tu descends, s'il te plaît. Please, come on. Merci pour le dîner.
Gemma est rentrée chez elle, seule et triomphante. Elle avait résisté à Patrick. Un exploit qui allait lui donner le courage d'affronter tout ce qui n'allait pas dans sa vie.
Je vais négocier des délais avec la banque et vendre la maison. Je partagerai avec Charlie pour qu'il puisse solder ses dettes. On a toujours le bail de l'appartement de Londres. On vivra là-bas et je travaillerai comme une dingue. En attendant, je vais tout vider et adopter une vie simple et austère. Quelques coussins, yoga le matin, tout un peu zen. Je vais me purifier, éviter l'alcool et le sexe, et surtout Patrick Lodge.
Le lendemain, Gemma est entrée dans l'atelier de Charlie. Là, derrière une boîte de thé, elle a trouvé le Cupidon et Psyché de Madame de Bressigny. Le pied cassé était en place, la réparation invisible. Charlie avait dû s'en occuper juste avant de partir pour l'Angleterre. Elle a couru jusqu'à la cabine téléphonique du village.
Charlie, j'ai trouvé le Cupidon derrière l'immeuble. Tu l'avais réparé. C'est moi qui me suis conduite comme une vraie salope avec toi. Tu me manques, Charlie.
Je passais dans l'allée quand Gemma m'a appelée.
Raymond,
une chance a-t-elle dit que je n'ai pas rédigé Raymond la lettre pour l'avocat.
Raymond, c'est bon.
Parce qu'elle venait de retrouver la statuette. Il suffisait à présent d'un petit mot informant Madame de Bressigny qu'elle pouvait venir chercher son bien. Aurais-je la gentillesse de l'aider à mettre ça en français? 3 minutes plus tard, j'étais chez elle. Le salon était en pleine réorganisation. Tous les meubles empilés d'un côté. La cuisine offrait son apparence habituelle. La table couverte de papier, des factures sur une chaise, une pomme à moitié mangée. Un exemplaire de Madame Bovary. Un exemplaire de Madame Bovary. J'ai fait un bond en arrière et j'ai renversé une chaise. Puis je me suis figé. Gemma me regardait d'un air très bizarre.
Oh mon Dieu, c'était vous, Raymond?
Oui.
C'est vous qui m'avez envoyé ces pages,
oui,
de Madame Bovary? Vous avez voulu briser mon histoire avec...
Attendez.
Mes salauds! Comment osez-vous vous mêler de ma vie, privée?
One minute, I explain.
Vous m'avez espionné, pauvre con, sale fouineur.
Idiote, c'est pour ton bien que j'ai fait ça, for your good. Ce livre, tu comprends pas le pouvoir de ce livre. Tout ce qui arrive à Madame Bovary t'arrive à toi, ton nom, ton adultère, tes dettes, tes amants, à la fin, elle meurt, elle se suicide.
Ne me racontez pas la fin, merde, vous allez gâcher tout. Et puis si vous croyez que je vais me buter pour quelques dettes, mais vous êtes dingue, vous alliez... Bon, vous allez partir, tout de suite, et laissez-moi tranquille. Allez, fichez le camp. Get out of here.
Mais, Gemma, j'ai peur pour vous. Vous allez mourir. Faites attention. Soyez prudente.
Laissez-moi tranquille. Fichez le camp.
Ces mots terribles sont les derniers que Gemma m'ait jamais adressés. En arrivant chez moi, j'ai commencé une lettre d'excuses. Je ne lui voulais pas de mal. Je n'avais pas tant espionné ses faits et gestes que veillé sur elle. Je me suis mis au lit avec le roman et j'ai filé droit au dernier chapitre. L'arsenic, la mort horrible d'Emma, la fin de Charles. D'atroces cauchemars ont suivi. Et je me suis réveillé au cœur de l'oppressante nuit d'août. J'ai su ce que je devais faire. J'ai préparé deux enveloppes. La première pour Charlie Bovary. Son adresse à Londres figurait sur sa carte qu'il m'avait donnée. La deuxième à l'attention de Patrick Large chez les Rankin. Voyez-vous, je devais sonner l'alarme. J'avais très peur pour Gemma Bovary. Quelque chose allait lui arriver. Le lendemain, j'ai sorti mon exemplaire anglais de Madame Bovary et, comme précédemment, j'ai photocopié plusieurs pages. J'ai choisi le suicide d'Emma et les détails de sa mort, ainsi que deux passages mentionnant les dettes. J'ai réparti les copies en deux paquets, les ai glissées dans les enveloppes que j'ai postées, anonymement. La première arriverait le lendemain. Pour Charlie, ce serait plus long. J'en arrive au point que je redoute, la dernière entrée du journal de Gemma, une douzaine de paragraphes jetés d'une main vive et confiante. Elle est interrompue par l'arrivée de Patrick Large, venu à pied de chez les Rankin.
Waouh ! Les huissiers sont déjà passés ?
Non, j'ai tout viré. Marre de vivre dans un boudoir de pute. Si les huissiers viennent, ils auront qu'à tout se servir. Je voudrais un truc moderne, net, minimal.
C'est bien. Ça me plaît.
Patrick est venu parce qu'il a reçu une lettre, un extrait de Madame Bovary. Encore une de ces futures enveloppes de Joubert.
Oh, c'est pas vrai, c'est encore les extraits.
Patrick a dit que je devrais le poursuivre pour harcèlement. Mais vraiment, ça n'en vaut pas la peine.
Non, écoute.
Je lui ai dit que j'allais vendre et m'arranger avec les créanciers.
De toute façon, je vais tout vendre.
Il a demandé où je comptais vivre une fois rentré en Angleterre.
Je sais pas. Ça dépend comment ça se passe avec Charlie. Je pense que j'ai envie de vivre seule. Je m'en sens mieux comme ça et à vrai dire, j'aime ça.
Tu sais quoi, Gemma? Je crois que tu devrais venir vivre avec moi à Londres. Je suis sérieux.
Mais Patrick, ça ne marcherait pas. Je le sais. Tout a changé. J'ai changé.
Ce soir-là, Patrick Large est parti vers 18h30. Ma femme m'a dit l'avoir vu passer dans l'allée. À 20h30, Gemma arrosait ses plantes. À 22h30, Gemma a éteint la lumière. J'ai encore passé une nuit misérable, torturée par la culpabilité. À 4h30, j'étais habillé et en route pour la boulangerie. J'avais besoin du confort de la routine. À midi, j'ai quitté la boutique plus tôt que d'habitude, emportant une de mes miches encore chaudes, une offrande de paix pour Gemma, que j'avais décidé de porter avec ma lettre d'excuse avant le déjeuner. En arrivant, j'ai entendu une succession de notes ondulantes que j'ai identifiées immédiatement comme le chant des baleines. Le son provenait d'un coin ombré où Gemma était agenouillée, dans la posture de la préparation au pranayama. « Om » a-t-elle fait trois fois. Je n'ai pas voulu la déranger. La porte de la maison était ouverte et je suis entré dans la cuisine. J'ai déposé le pain et la lettre sur la table, puis je suis parti. Par-dessus mon épaule, j'ai vu Gemma toujours en position de calme yogi, totalement en paix. C'est la dernière fois que je l'ai vue en vie. Nous en étions au fromage. C'était le premier repas de la semaine auquel je prenais une sorte de plaisir. J'attaquais le camembert quand j'ai entendu un véhicule tourner dans l'allée et s'arrêter près de notre portail. Martine et moi, nous sommes levés ensemble pour aller voir.
Je crois que c'est Charlie. Il est rentré d'Angleterre. Pourquoi il s'est garé devant chez nous? Il veut peut-être faire une surprise à Gemma.
Je sais pas. Je vais faire ma sieste.
Je n'avais jamais été aussi heureux de voir quelqu'un. Tout va bien maintenant, ai-je pensé. Charlie avait reçu ma lettre et elle l'avait ramenée vers Gemma. Il allait s'occuper d'elle. Désormais, elle était en sécurité. Je me suis allongé sur le canapé. J'ai rêvé qu'une vache meuglait dans notre jardin Et sa plainte ne s'est pas arrêtée quand j'ai ouvert les yeux. J'ai regardé la pendule. J'avais dormi 5 ou 6 minutes peut-être. Le beuglement s'est intensifié. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu quelqu'un traverser en courant le pré qui jouxte notre maison. Charlie Bovary, hurlant. Charlie, avec du sang sur le visage.
Gemma, elle est morte.
Gemma morte. La catastrophe redoutée s'était produite. J'ai honte de Gemma la façon dont j'ai réagi. Comme s'il s'agissait de ma tragédie et non de celle de Charlie.
Je savais, tu le savais.
Hubert, pour l'amour du ciel, le téléphone, laissez-moi appeler les urgences. Je vais là-bas.
Je n'ai été d'aucune utilité à Charlie, mais ma femme a crié qu'elle allait appeler les secours. Il est reparti, courant à travers champs. Plusieurs choses me venaient à l'esprit. Si Gemma avait pris de l'arsenic et j'étais persuadée dans mon délire qu'elle l'avait fait, l'effet létal mettait un certain temps à se produire, donc elle était toujours vivante, non ? Charlie avait du sang sur la figure, celui de Gemma s'était-elle tuée d'une balle dans la tête ? La plus grande partie de cet épouvantable après-midi s'est perdue dans le brouillard. Je me rappelle, comme nous approchions de la maison, avoir entendu arriver l'ambulance. Dans la cuisine des Bovary, le seul désordre visible était une chaise renversée. Ma lettre d'excuse n'était plus sur la table, mais mon pain s'y trouvait, ingrédient d'un frugal repas de fromage et de salade. Un quart de la miche avait disparu. Charlie était agenouillé près de sa femme. Gemma était grise, mais son corps ne portait aucune trace de violence. Elle était morte. C'était incontestable. Les ambulanciers n'ont rien pu faire. Ils venaient de repartir quand une Range Rover est arrivée avec les Rankin et un de leurs invités qui était médecin. Quant à moi, j'ai été lamentable. Je me suis donné en spectacle, d'après Martine. J'ai hurlé à la mort et elle a cru que j'étais fou. Gemma s'était étouffée, voilà ce qu'avaient dit les ambulanciers. C'est ce que Charlie a répété debout dans la cuisine avec ses lunettes cassées et une petite tache de sang sur sa chemise. Mais plus la moindre trace du sang que j'avais vu sur son visage. Elle s'était étouffée avec un morceau de pain. Mon pain, que j'avais laissé sur la table 3 heures plus tôt, l'avait tué. Non content d'avoir influé sur le cours de sa vie, j'avais été l'instrument de sa mort. Gemma Bovary est en terre depuis quelques semaines au cimetière de Bailleville. Martine et moi avons assisté au service qui s'est tenu dans la chapelle. Patrick Large était là avec des lunettes noires. Wizzy Rankin a tout assumé, le cercueil, les fleurs, l'enterrement et les rafraîchissements chez elle après la cérémonie. La vie continue. L'intérêt local pour l'accident s'est calmé. Les clients ne me harcèlent plus pour obtenir des détails. Ils ont cessé de répéter exactement comme Madame Bovary. Avant de se contredire, en fait, pas du tout. Madame Bovary s'est suicidée alors que cette Anglaise s'est étranglée avec un croissant, non ? Comme sa mort semble ignoble, comique. Mais pas pour moi. Je ne mange plus. Je ne dors plus. Je ressens un besoin urgent de parler à Charlie, moins pour me confesser que pour clarifier les choses. C'est ainsi que par un après-midi de septembre, comme tous les jours depuis la mort de Gemma, je traverse le champ vers la maison de Charlie. Ce jour-là, je porte un sac contenant les cahiers de sa femme. J'ai longtemps songé que la malédiction de Madame Bovary n'avait pas épuisé sa course, et que tôt ou tard je finirais par le trouver mort dans son jardin, comme Charles Bovary. Mais le temps a passé et il n'est rien arrivé. Charlie boit, cuve son chagrin, fait visiter sa maison aux acheteurs potentiels. Je devrais me sentir plus tranquille à son sujet, mais j'oscille entre la culpabilité et la colère. Je lui en veux terriblement d'avoir choisi d'ignorer les amants de Gemma. Aujourd'hui, je me sens coupable.
Charlie, t'es là ?
Ah, Raymond, c'est vous. Entrez. Ça fait longtemps que je veux vous parler.
Pour une fois, Charlie me regarde droit dans les yeux. Un regard accusateur, celui d'un homme décidé à remonter quelque chose d'affreux du fond du marais. La terreur m'étreint. Il sait, il connaît tous mes secrets.
Ok, Charlie. Je vais tout te dire. Un, j'ai volé et j'ai lu tout le journal intime de ta femme. Tout est là. Deux, I am guilty, Charlie. Je suis coupable de la mort de Gemma. I kill her.
Raymond, taisez-vous. Please, essayez de dire des conneries. Comment auriez-vous pu la tuer? C'est moi qui suis coupable. Je l'ai tuée, Raymond. J'ai tué Gemma.
Toi, tu as tué ta femme? Mais comment? Comment, Charlie?
C'est de ça que je voulais parler. C'est trop lourd à porter. Il faut que j'en parle à quelqu'un. Voilà. J'en avais marre de Gemma. Elle ne savait pas ce qu'elle voulait, changer d'avis tout le temps. J'en avais marre aussi de la liaison qu'elle avait avec un type du coin. J'étais au courant. Elle a commencé à se parfumer pour aller promener le chien. Je l'ai suivie une fois. Je l'ai vu retrouver ce type au château. J'étais jaloux. Mais je ne lui en ai jamais parlé parce que je savais que ça ne durerait pas. Le problème, c'est que quand ça s'est terminé, elle a continué à se morfondre. Alors je me suis dit, eh merde, et je suis rentré à Londres. Un jour, elle m'a appelé, s'est excusée pour tout, elle m'a dit que je lui manquais. Le lendemain, elle m'a écrit une longue lettre. Elle disait qu'elle m'aimait, qu'elle allait reprendre les choses en main, vendre la maison, régler nos problèmes financiers, et que peut-être on pourrait essayer de revivre ensemble à Londres. Par le même courrier, j'ai reçu ces pages de Madame Bovary qui parlait de suicide. C'était posté de Byville, mais je savais que ça ne venait pas de Gemma. Pas son style. Je ne sais pas pourquoi, ça m'a inquiété. Je me suis dit que je ferais mieux de venir voir. Alors j'ai pris le ferry à Douvres en pensant à Gemma. J'étais confiant. Je croyais qu'on allait tout recommencer. En arrivant à Byville, j'ai garé le van dans l'allée et j'ai marché jusqu'à la maison. Je voulais lui faire une surprise. Il faisait chaud et toutes les portes étaient ouvertes. J'ai entendu du bruit. Une voix d'homme haletante. Je suis entré dans la cuisine et je les ai vus en pleine action. J'ai compris que le type était anglais quand il a prononcé mon nom. Je voulais le tuer. J'étais fou de rage.
Laisse ma femme tranquille, fouillée.
Arrête, Charlie.
Femme qui est là.
Charlie, arrête, Charlie.
Je ne l'avais jamais rencontré, Gemma. Mais j'ai compris qui c'était. Le petit ami de Gemma avant qu'on se marie.
Patrick Larch.
Gemma s'est étouffée. Oui.
Patrick criait quelque chose à propos de Gemma, et c'est là que je me suis rendu compte qu'elle était par terre, inconsciente ou morte. Elle avait une drôle de couleur. Patrick a dit qu'elle s'était étouffée et qu'il avait essayé de lui débloquer le diaphragme, ce qu'on fait dans ce cas-là. Seulement, il n'était pas arrivé à faire marcher le truc. D'où ma méprise en entrant dans la cuisine. C'est ce que je voulais dire, Raymond. J'ai tué Gemma. Si je n'avais pas commencé à me battre, Patrick l'aurait peut-être sauvé. Chaque seconde compte. Ça ne prend que quelques minutes pour mourir étouffé. Ensuite, j'ai couru chez vous pour téléphoner et Patrick s'est précipité chez les Rankin chercher leur ami médecin. Sans nous concerter, ni lui ni moi n'avons parlé de la bagarre. Pourtant, Patrick avait un œil au beurre noir et moi le nez en sang. Mais personne n'a rien demandé, alors on n'a rien dit. Au bout d'un moment, ça n'avait plus d'importance. Gemma était morte. Patrick est revenu ici le soir même. Il m'a dit que c'était sa faute si elle s'était étouffée. Il l'avait énervée pendant qu'elle déjeunait.
Charlie se tait. Je pense, en fin de compte, c'était bien un accident. Personne n'est à blâmer. Ou alors indirectement, Charlie pour s'être battu avec Patrick, Patrick pour avoir mené Gemma à s'étouffer avec son sandwich, et moi, de très loin, pour avoir fourni la miche de pain. Les larmes me montent aux yeux et je pleure. Sur Gemma, sur le gâchis de sa vie, et pour Charlie dont le cœur, je crois, est brisé. Je tends le bras pour prendre un mouchoir, et par hasard, ma main tombe sur l'exemplaire de Madame Bovary qui appartenait à Gemma. Immédiatement, ma terreur revient.
Charlie, ce livre. Tout ce qui se produit dans ce livre est arrivé à Gemma, ça va t'arriver à toi aussi. Madame Bovary, elle meurt. Et Charles Bovary meurt aussi. Il y a trop de coïncidences, Charlie. J'ai peur pour toi. Ne meurs pas, please.
Qu'est-ce que vous racontez, Raymond? Je n'ai pas envie de mourir.
Oh là 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 là, Raymond, arrête un peu. Bonsoir, Charlie. Je vous ai rapporté votre linge.
Oh, Martine, c'est gentil de faire tout ça.
Ça suffit, Raymond. Tu nous ennuies avec ce livre infernal. Madame Bovary par-ci, Charles Bovary par-là. Je suppose, Charlie, que maintenant il te raconte que tu vas mourir.
Well, yes, il a abordé le sujet, mais... Mais attendez, Raymond, mon vrai nom n'est pas Charles. On me surnomme Charlie, mais je m'appelle comme mon grand-père, Cyril.
Cyril? Cyril Bovary?
Oui. Ça change quelque chose?
Oh, Cyril, quel bonheur! Viens que je t'embrasse!
C'est le printemps, et les pommiers des Bovary sont en fleurs. Il y a quelques mois, Charlie, ou plutôt Cyril Bovary, a vendu la maison à un prix qui, d'après Madame Rankin, lui a permis de régler ses dettes et celles de Gemma. Il vit à nouveau à Londres, dans le même appartement. Il a ses enfants non loin de là, et une petite amie, une avouée, qu'il a rencontrée sur le ferry. Quand il est parti, il a promis de revenir nous voir, mais je doute qu'il le fasse. Bayville lui rappelle trop d'événements tristes. Quant à Hervé, on ne l'y a pas vu de tout l'été. On dit qu'il a passé son droit et qu'après avoir découvert sa liaison avec Gemma, Delphine l'a quitté. Je l'ai aperçu une fois en novembre au cimetière. C'était la Toussaint et les Bressigny étaient venus fleurir le caveau de famille. Hervé s'est dirigé vers le carré récent, là où gît Gemma, Madame Bovary. Aujourd'hui, il y a un camion de déménagement devant la maison. Les nouveaux propriétaires s'installent. Ils sont anglais, eux aussi, comme les Bovary. Un couple. Il est plus âgé qu'elle, me dit Martine. Elle a croisé la femme dans l'allée. Elle s'appelle Jane. Jane Eyre.
C'était Gemma Bovary de Posy Simmons, adaptation radiophonique de Lili Stein. 10e et dernier épisode avec
Élodie Hubert,
Gemma Bovary,
Vincent Schmitt,
Raymond Joubert,
Laurent Lederer,
Charlie Bovary,
Léonie Pinjou,
Martine Joubert,
Brontis Jodorowsky,
Mark Rankin,
Chloé Baker,
Wizzy Rankin,
Julian Egerix,
Patrick Large,
Anne Canovas,
Florence de Bressigny
et bien d'autres. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière.
Bruitage, Sophie Bissens.
Équipe de réalisation, Cédric Chatelus, Pierre Henry, Manon Dubus, Jean-Mathieu Zande.
Traduction Lili Stein et Jean-Luc Fromental. Gemma Bovary est publiée aux éditions de Noël.